Chapitre 19. La nuit suivante, je ne suis pas parvenu à dormir. J'avais préféré revenir à l'appartement et laisser Elena rentrer seule chez elle. Elle devait se lever tôt. Je pressentais qu'il n'en serait pas de même pour moi. Nous nous étions séparés dans le hall de notre immeuble après nous être enlacés et embrassés sous le porche comme deux adolescents clandestins. J'étais dans cette phase incertaine où j'estimais satisfaisant le scénario achevé, mais je ne savais pas encore si les démarches que nous avions entreprises auprès du CNC et des chaînes de télévision pour trouver le financement allaient aboutir. Cela me plongeait dans un état où se succédaient les phases d'excitation, d'impatience, d'abattement et d'énervement. Je consultais bien plus souvent qu'à l'ordinaire mon médecin, pour un oui ou pour un non. Je me découvrais quantité de douleurs, de maux de ventre, de palpitations, de migraines insistantes, de crises de tachycardie. Eugène me connaissait par cœur et avait l'habitude dans ces moments-là de me faire livrer une caisse de Bordeaux accompagnée de la posologie à respecter. En rentrant, j'avais trouvé un message de Florence sur le répondeur. « Rien de spécial, disait-elle. Je voulais juste savoir comment tu allais. » Sa voix était empreinte d'une légèreté surjouée. J'y sentais aussi une tristesse retenue. Nous ne nous étions pas vus depuis plus de 3 mois. J'avais annulé les derniers dîners en raison de rendez-vous relatifs à mon projet de film. Peut-être avait-elle cru que je l'évitais. Comment allais-je? J'ai tourné dans tous les sens la question anodine qu'elle me posait. Pas trop mal, sans doute. Il y avait pire. Y avait-il mieux? Si j'établissais une échelle composée de 10 graduations représentant un baromètre de la perception de mon état d'esprit, de mon humeur, de ma santé physique, des sensations que mon corps me renvoyait, de la façon que j'avais de vivre en paix ou pas avec lui, et si le degré 10 correspondait à l'après-midi sur la côte amalfitaine, dont je m'étais souvenu quand pour la première fois j'avais été face à Elena dans son petit bureau du CNRS et que j'avais respiré son haleine parfumée d'orange, moment gracieux, instant de sérénité né non pas d'un événement précis particulièrement joyeux, mais d'un équilibre parfait entre toutes les données qui composaient ma vie d'alors, où placer le curseur pour qualifier ma vie présente? Au-dessus de 5, c'était certain, mais très au-dessus ou à peine? Je m'accrochais à l'expression que nous employons tous, sans plus jamais réfléchir à son sens profond. « Comment vas-tu? Comment va-t-elle? » Je la décortiquais comme un fruit devenu soudain exotique, sans trop savoir ce que cachent ses multiples écorces. Je me disais qu'il était cocasse d'employer un verbe qui indique le mouvement pour caractériser un état mental ou physique. Nous nous percevons comme des êtres mobiles. Notre mouvement garantit notre bonheur. Si plus rien ne bouge, n'avance, si tout s'arrête, s'immobilise, la possibilité du bonheur meurt et nous avec. Ça ne va plus. Nulle part. La ville, depuis des jours, s'était chargée d'une chaleur électrique que la nuit tendait comme le faisceau d'un arc de soudeur. J'étais allongé sur le lit, les fenêtres ouvertes. Je fumais des cigarettes en restant dans le noir. De temps à autre, la trace fugace d'une sirène d'ambulance déchirait le faux silence du dehors. Et puis, plus rien. L'odeur du tabac jouait avec celle des grands acacias en fleurs qui montaient de la cour intérieure. À l'évidence, en me demandant comment j'allais, Florence voulait me faire comprendre qu'elle n'allait pas très bien. Nous n'étions plus un couple, mais tout de même. Elle s'était remariée assez vite. Mais tout de même, notre séparation de corps et notre divorce n'avaient jamais signifié la fin de notre relation. Il en avait été ainsi depuis des années, dans la chambre 107 et ailleurs, dans des restaurants, des cafés, des conversations, des gestes tendres. Mais je me rendais compte, et elle aussi sans doute, que de façon réellement inexplicable, la mort d'Eugène avait également rebattu les cartes que nous avions alignées, elle et moi, comme de braves joueurs, satisfaits de rejouer sans cesse la même partie. Eugène disparut, Florence semblait également s'éloigner de moi, ou moi d'elle, comme si mon ami l'entraînait dans son sillage, dans son voyage, dans la distance que sa mort installait. En d'autres termes, il me paraissait de plus en plus évident que Florence appartenait à une de mes vies antérieures, ma vie avec Eugène, pour parler vite, qu'elle avait sa place centrale dans cette existence-là, cette existence qui n'existait plus. Cette pensée me fit de la peine pour elle, et je mesurai combien ce que je venais de découvrir faisait de moi un être peu fréquentable. Je savais que, sans avoir jamais été vraiment perspicace, j'approchais là d'une vérité. Et j'allais devoir vivre avec ce constat, me reprochant sans doute de penser, de sentir, d'agir ainsi, me rendant coupable d'un petit meurtre ignoré de toute police, dans lequel ce ne serait pas du sang qui s'écoulerait du corps de la victime, mais du chagrin. Aucune loi ne condamnant ce genre d'assassinat, je resterai impuni. J'ai pris une douche et je me suis assis face à la télévision. Je ne l'avais pas allumée depuis des mois, peut-être des années. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où je l'avais regardée. J'ai pris la télécommande et j'ai appuyé sur le bouton « marche ». L'écran s'est illuminé aussitôt. Je me suis fait la réflexion que la télévision était sans doute un des rares appareils à pouvoir fonctionner après des années d'inactivité, à ne jamais tomber en panne, comme la bêtise dont elle procédait et dont elle se nourrissait, qui jamais ne faiblit ni ne disparaît. Des images sont apparues, une course de moto. Le son était à un niveau très bas. Le bruit obstiné des moteurs ressemblait au bourdonnement d'insectes occupés à butiner. J'ai regardé les engins serrés entre les cuisses de pilotes revêtus de combinaisons en cuir sadomasochistes, faire quelques tours de piste, puis je suis passé d'une chaîne à l'autre, de façon aléatoire, en appuyant sur des boutons de la télécommande sans même les regarder. Il devait être 3 heures du matin. Vers mes 14 ans, j'avais récupéré le poste en noir et blanc de ma tante qui venait d'acheter un téléviseur couleur. Je l'avais installé dans ma chambre, face à mon lit. J'ai passé des années à regarder ainsi les deux ciné-clubs, celui proposé par Claude Jean-Philippe le vendredi soir et celui de Patrick Brion le dimanche soir. C'est à ces deux hommes que je dois l'essentiel de ma culture de cinéphile. Parfois, tout de même, en raison de ma fatigue ou parce que le film me captivait moins, je m'endormais et je me réveillais plus tard dans la nuit. Sur l'écran tombait une neige affolée et dense qui produisait un suintement léger, comme celui que fait un autocuiseur lorsque la vapeur commence à s'en échapper. À cette époque, la télévision marquait le jour et la nuit. Les programmes s'interrompaient vers 1 heure pour ne reprendre que vers 7 heures du matin. Elle s'est émancipée aujourd'hui de la tutelle des horloges, du biorhythme des hommes et des frontières. En un simple geste, je suis passé d'une discussion en arabe entre deux hommes coiffés d'un keffier, assis en tailleur sur des tapis, dans ce qui devait être une tente de bédouin, à un ballet à la chorégraphie martiale exécutée par des danseurs chinois au sourire mécanique, puis à une cuisinière texane obèse qui préparait devant les caméras ce qui paraissait être un chili con carne, pour aller quelques secondes plus tard suivre un chasseur de phoques et sa famille qui se déplaçait en motoneige sur des immensités blanches. J'ai fini par m'arrêter sur le plan aérien d'une mer très bleue qui remplissait tout l'écran, à tel point que s'il n'y avait pas eu de temps à autre d'imperceptibles et onctueux roulis pour mouvoir la masse d'eau, j'aurais pu croire qu'on cadrait un monochrome d'Yves Klein. J'avais coupé le son lorsque la cuisinière américaine avait commencé à s'en prendre violemment aux oignons. Le plan durait. Sans doute était-ce un programme destiné à détendre le téléspectateur, une séquence s'insérant dans une émission de relaxation nocturne à destination des insomniaques. Et je dois avouer que cela fonctionnait très bien sur moi. J'étais obnubilé par l'image et la profondeur apaisante qu'elle contenait. La saturation du bleu, très proche du pigment de l'IKB, et comme lui exempt de toute brillance, de tout reflet, ce qui avait pour effet immédiat d'absorber le spectateur, conjugué au balancement lourd et lent, huileux, de la surface de l'eau et au mouvement circulaire de l'hélicoptère duquel étaient filmées les images, agissait comme un calmant. Je me suis senti, après quelques secondes, merveilleusement apaisé, sous le coup d'une hypnose légère. Mais brutalement, le plan a disparu pour laisser place à un autre plan qui n'avait rien à voir avec le précédent. Même si la mer y était toujours présente, mais une mer que je ne parvenais pas à associer à la première, tant elle était terne, grise, nappée de flaques grasses, et sur laquelle dérivait une embarcation dont la structure disparaissait entièrement, à l'exception d'un mât et d'une partie de proue, sous un amoncellement de corps d'hommes, de femmes, d'enfants noirs, tous debout, serrés les uns contre les autres et fixant l'objectif de la caméra, qui devait se trouver sur une autre embarcation, plus mobile et plus légère, si j'en jugeais par le tressautement de l'image, à moins de 20 mètres d'eux. Ma première réaction n'a pas été humaine, je dois l'avouer. La compassion n'est venue qu'ensuite, mais d'ordre, disons, scientifique. Comment était-il possible que le poids constitué par cette grappe humaine, qui ressemblait par sa forme et sa densité à un gigantesque essaim d'abeilles, comme on en voit parfois engourdies et collées les unes aux autres à l'approche de l'hiver, suspendues à un élément de charpente, sous une volée de toit ou à la branche maîtresse d'un arbre, comment était-il possible que ce poids ne fasse pas couler ni chavirer le navire ? Navire déjà presque perdu, imperceptible, éreinté et comme dissous par la masse des malheureux. Ce qui me frappait aussi, c'était qu'aucun de ces hommes et femmes ne bougeait ni ne parlait. Ils se tenaient droits, immobiles, et on les aurait crus debout sur les eaux, apparitions fantastiques et inquiétantes, qui les apparentaient à des créatures peu humaines, dotées de pouvoirs surnaturels et dont les regards fixes en faisaient des sortes de juges. Ils me regardaient, ils nous regardaient, ou de justiciers, ou de justiciables peut-être, des plaignants venus entendre au milieu des mers le résultat d'une délibération cruciale pour leur devenir. L'image a disparu à son tour, pour laisser place au corps d'une journaliste Auburn, excessivement maquillée, qui tenait un micro dans sa main droite et portait un récepteur dans son oreille gauche, qu'elle était obligée de temps en temps de maintenir avec le majeur et l'index de sa main libre, car le vent soufflait avec violence, agitant ses cheveux et emportant le petit élément de plastique beige qu'elle ne parvenait pas à fixer. Elle était cadrée à hauteur de poitrine et se tenait un peu à gauche de l'image, pour laisser sur sa droite la possibilité au spectateur de découvrir en arrière-plan une longue plage dont l'accès, 2 à 3 mètres derrière la journaliste, était barré par un ruban de plastique orange, comme ceux qu'on utilise sur les scènes de crime et que les bourrasques changeaient en un serpent fluorescent qui paraissait se tordre de douleur. La journaliste parlait. Son visage était grave. On sentait aussi qu'elle avait froid, et tout en parlant, elle s'est tournée à 3 reprises à demi sur sa gauche, tout en continuant à regarder la caméra, à me regarder, pour désigner avec sa main libre ce qui se trouvait derrière elle, l'étendue de la plage qui finissait à l'horizon par être bue par le ciel bas, mais sur laquelle, bien avant qu'elle ne disparaisse, en y prêtant attention, on apercevait des hommes habillés de combinaisons blanches comme celles que portent le personnel des centrales nucléaires ou les enquêteurs de la police scientifique qui se penchaient sur les flots et tirer des masses lourdes et sombres, les poser sur la grève, tandis que d'autres hommes, habillés de la même façon, disposaient ses formes sur des brancards et s'éloignaient de la mer, 2 par 2, lentement, en portant ces brancards alourdis désormais du poids des corps inertes, vers des fourgonnettes à l'arrêt, rangées en épis les unes contre les autres. En tâtonnant, j'ai cherché la télécommande, tout en ne lâchant pas des yeux l'écran, et au moment où je l'ai senti dans ma paume et que très vite j'ai trouvé le curseur du son pour quitter le mode silencieux, l'écran s'est de nouveau empli de l'image totale de la mer qui m'avait tant apaisé quelques minutes plus tôt, et une voix féminine, sans doute celle de la journaliste, légendait cette image, lui donnait un contrepoint sonore, frénétique et anxiogène, même si elle s'exprimait en italien, qui est la langue dans laquelle, par sa musicalité, les inepties ou les horreurs les plus grandes peuvent paraître charmeuses, qui expliquait, dans ce que je parvenais à comprendre, que là, à cet endroit que survolait l'hélicoptère, dans ce merveilleux aplat outre-mer, velouté et éternel, à quelques 1000 marins de Lampedusa, avait sombré une embarcation qui ne méritait pas le nom de cargo, emportant dans les profondeurs de la Méditerranée, que la journaliste, à deux reprises, comme pour insister sur l'ironie de la formule, a désigné par le nom antique de Mare Nostrum, 800 migrants ayant fui la Libye ravagée par la guerre et dont quelques corps seulement avaient été depuis rejetés sur la côte.